Rouletabille chez les Bohémiens, chapitre 7e. À Severton. 1. Par ces temps de désordre, on a quelque raison de craindre des méchants l'obscure trahison. Otway. L'événement s'était accompli comme Hubert l'avait préparé. Nous avons dit que les jeunes gens avaient eu le temps de bien repérer le terrain avant l'arrivée des Bohémiens. Sournoisement, Hubert avait travaillé pour son compte et s'était dit qu'il enlèverait Odette dans telle et telle condition. La jeune fille se montra docile à toutes ses suggestions. Du reste, le plan était des plus simples. En quittant la roulotte, il eut un court entretien avec Sumbalo, qui voulait qu'il restât à souper et qui lui offrait de passer la nuit au camp. Mais il se retrancha derrière les ordres qu'il avait reçus et ne voulut rien accepter. Il devait partir sur le champ. Il remonta donc à cheval et s'en fut à fond de train du côté de l'Occident, où il comptait retrouver Jean et Rouletabille. Un coup de sifflet l'arrêta sur la route, et il fut étonné d'apercevoir Jean, tout seul. Celui-ci lui dit que Rouletabille avait voulu surveiller le camp d'un autre côté, et lui demanda anxieusement des nouvelles d'Odette. « Tout va bien !» lui répondit Hubert. « Les Bohémiens ne se doutent de rien. Je vais retourner à travers champs vers le camp et me placerai en un endroit où doit venir me retrouver Odette, qui sera sans doute accompagnée de la vieille Zina. Je l'enlève et je vous rejoins. »« Je vous accompagne, » fit l'autre. « C'est tout compromettre. Le camp est bien gardé. Je puis être reconnu. En ce qui me concerne, je ne risque rien. » Je raconte que je suis revenu parce que j'ai oublié de dire quelque chose à la reine, et je passe la nuit au camp en attendant la première occasion propice. Allez donc, fit Jean, et que Dieu soit avec nous. Derrière Hubert, qui était déjà reparti, il se rapprocha du camp, lui aussi, décidé à surveiller de loin son rival. Mais bientôt il en eut perdu toute trace. Il s'arrêta sur une légère éminence, d'où l'on pouvait découvrir toute la Pusia jusqu'à la lisière du bois, quand la lune se montrait entre deux nuages. Une demi-heure après le départ d'Hubert, Odette avait ouvert la porte de sa roulotte. Abritées derrière leurs cabanes ambulantes contre le vent qui soufflait avec violence, les cigains soupaient. Zina l'aperçut et courut à elle. « Veux-tu enfin manger, petite flamme de ma vie ?» Et la vieille fut dans une joie immense parce que Odette consentit à tremper un peu de pain noir dans du lait. La jeune fille manifesta alors le désir de se promener un peu autour du camp avant de s'aller coucher. Zina lui jeta un fichu sur les épaules et l'accompagna. Les cigains les laissaient faire. Ils savaient bien qu'elle ne pourrait dépasser le cordon des sentinelles qui, chaque nuit, veillaient sur leur reine. Odette s'avançait toujours plus profondément sous la futaie, d'un pas nonchalant, arrachant autour d'elle les hautes fougères. « Je veux dormir sur les herbes ce soir. J'en ai assez de ton sale grabat de vieille petite bonne femme de sorcière. » Zina, esclave de ses caprices, s'empressait de se charger de fougères, elle aussi. Et tout à coup, en relevant la tête, elle ne vit plus Odette. Des branches remuaient devant elle. Elle cria, appela. Des cris lui répondirent, puis ce furent d'abominables jurons. On lui cria, « On enlève la Kéra !» Une rumeur, un désordre indescriptible, les cigains sautant sur leurs armes, une course éperdue de toutes parts, et l'arrivée affolée de Calista suivie d'Andrea. Ah, cette Calista, comme elle s'était relevée! Avec quel cri de rage elle avait rejeté le cigain! Tu avais juré de veiller sur elle! Je ne te dois plus rien! En vérité, celle qui passa un fort mauvais quart d'heure après cette terrible algarade fut la pauvre Zina. Ah, Lucella, la chienne! Elle fut battue, déchirée, lacérée avec une ardeur incomparable. Pendant que toute la Pusia voisine retentissait du galop des cigains, le camp était plein des clameurs de la vieille. Certains n'hésitaient pas à la rendre complice de l'évasion d'Odette, et le lui faisait cruellement payer. Les femmes, enragées, étaient pendues à son chignon. Elle eût été tuée sur place sans l'intervention de ce mbalot qui fit lâcher prise à ses harpies. Jean avait entendu les cris, les coups de feu, et se disait qu'Hubert avait réussi. Il s'apprêtait à le rejoindre, autant pour lui prêter secours que pour ne pas le laisser tout seul avec sa belle proie. Il s'était dressé sur le mamelon qui lui servait d'observatoire et essayait de percer les ténèbres qui s'amoncelaient devant lui. Entre deux nuages, la lune se montra et il vit la course éperdue des cigains qui, d'instinct, se dirigeaient vers la route de l'Est. Mais s'il les vit, lui aussi fut aperçu. Des clameurs accueillirent son apparition. De toute évidence, on le prenait pour le ravisseur. Et il n'eut que le temps de retourner sa bête et de regagner la Pusia en vitesse. Mais les autres accouraient derrière lui, en s'encourageant par des cris féroces. Ils ne tiraient pas encore, car ils avaient peur, en déchargeant leurs armes sur cette ombre équestre qui s'enfuyait, d'atteindre celle qui était l'objet de tous leurs vœux. Jean avait fini par gagner la route, mais il comprit qu'il allait être rejoint, et tout à coup, il se jeta désespérément dans une saulaie qui bordait un marécage. Là, il n'hésita pas à abandonner son cheval. Il se lança à la nage et finit par atteindre l'autre rive après 1000 efforts qui le sauvèrent d'un véritable enlisement. Alors, exténué, il se coucha parmi les roseaux et attendit les événements, incapable pour le moment d'aucune réaction nouvelle. Il entendait, non loin de là, ceux qui le cherchaient s'approcher dans un tumulte affolé et battre les hautes herbes. Des lumières coururent çà et là. Il ferma les yeux. Quant à Hubert, il n'avait pour ainsi dire pas bougé. Il était dans un arbre avec Odette. Son cheval attaché au fond d'un ravin, occupé à dévorer la ration d'avoine qui garnissait le sac que son maître lui avait attaché au col avant de le quitter, n'avait garde de donner signe de vie. Quand les bruits commencèrent à s'apaiser du côté du camp, quand les cavaliers se furent enfoncés dans la nuit comme des fous qui chevaucheraient des ténèbres, il descendit de son refuge et emporta Odette dans ses bras. Bientôt il eut rejoint sa bête. Il mit Odette en selle et dirigea son cheval par la bride. Ils firent ainsi maint détour dans la forêt. Ils n'hésitaient pas, ils savaient exactement où il allait. De temps à autre, il reconnaissait un point de repère et accélérait un peu la marche. Il faisait encore nuit quand il déboucha dans la Pusia, vers le nord, d'un côté où certainement personne ne le cherchait. Alors il sauta sur sa bête. D'un bras, il retenait Odette devant lui, et son cœur bondissait de sentir cette jeune vie contre sa poitrine. « Comme autrefois !» lui souffla-t-il dans son cou odorant. Et il enfonça ses éperons dans le ventre de sa monture. Celle-ci fit voler les cailloux du chemin de ses sabots rageurs. Oui, comme autrefois, quand Odette n'était encore qu'une toute petite fille et qu'il l'emportait ainsi sur sa selle dans le vent des Camargues. Comme autrefois, quand elle ne pouvait se passer de lui, quand elle le trouvait le plus beau des gardiens. Comme autrefois, quand elle l'aimait de tout son petit cœur simple et sauvage. Comment ne l'aimerait-elle pas encore? Est-ce qu'il avait changé, lui? Est-ce qu'il n'était pas toujours aussi fort? Qui craignait-il au monde? Ce Jean, qui, en son absence, s'était introduit un instant dans le cœur de cette petite? Ce Rouletabille, qui semblait l'y avoir remplacé? Un instant aussi. La vérité, pensait-il, était qu'Odette était restée très enfant, et que les sentiments passagers qui avaient agité son cœur naïf seraient vite oubliés quand elle ne verrait plus que lui, Hubert. À l'aurore, ils se trouvèrent dans un chemin encaissé qui les conduisit vite à une vieille tour à moitié démolie, d'où, à leur approche, s'envola tout un bataillon de pigeons. « C'est ici, » fit Hubert. Odette n'avait pas encore prononcé un mot. Elle se laissa glisser de cheval et Hubert la conduisit dans une salle basse avec beaucoup de cérémonies souriantes. « Voici votre palais, ma reine !» Mais elle ne lui souriait pas. Hubert, gracieux, lui faisait plus peur que tout. Elle le regarda une seconde et détourna la tête, rougissante, tant la flamme de ses yeux semblait la dévorer. Dans le premier moment, Odette avait accueilli Hubert comme un libérateur. Mais depuis qu'elle se trouvait seule avec lui, au fond de cette vieille tour perdue dans un désert d'où elle ne pouvait espérer aucun secours, elle se demandait anxieusement si elle n'eût point mieux fait de rester la prisonnière de ces bohémiens qui l'entouraient de leurs marques d'adoration et de respect. Au fond, elle n'avait aucune confiance en Hubert. Connaissant sa brutalité célèbre dans les Camargues, et si elle l'avait suivi aussi facilement, c'est qu'il avait profité de l'étourdissement, ou plutôt de la dépression morale qu'il avait provoquée en lui apprenant que Jean, resté en France, n'avait rien tenté pour son salut. Pourquoi l'avait-elle cru? Il avait peut-être menti. Il avait sûrement menti. Elle connaissait bien son Jean. Il était incapable de cette trahison. Le traître, le méchant, c'était Hubert, et elle était seule avec lui. Elle frissonna. Elle n'osait plus le regarder. Il s'était un peu éloigné d'elle pour la rassurer et paraissait maintenant occupé uniquement des soins du ménage. Tout avait été préparé par lui dans ce réduit pour qu'on y pût passer quelques heures de repos et de réconfort. L'endroit était relativement propre, récemment nettoyé des débris de toutes sortes qui l'encombraient. De vieilles pierres écroulées avaient été rassemblées pour construire une espèce de foyer dans lequel un feu de bois était préparé pour réchauffer Odette si elle en avait besoin. Un lit de fougère, sur lequel était jetée une couverture, était prêt à la recevoir. Enfin, il avait allumé une petite lampe à alcool sur laquelle il faisait bouillir de l'eau pour faire du thé. En attendant, il lui demanda si elle ne voulait point prendre un peu d'alcool pour se réconforter, et il lui tendit le gobelet de sa gourde, mais elle le repoussa. Alors, d'une anfractuosité de la muraille, il tira quelque chose qu'il y avait mis en réserve et lui dit « Une omelette, vous mangerez bien une omelette ?» C'était des œufs de pigeon. Elle sourit. Il ne la regardait plus. Elle reprenait confiance. « Oui, une omelette. Vous avez pensé à tout. Je ne sais comment vous remercier. »« C'est moi qui vous remercie, » fit-il, « d'avoir consenti à me suivre. » Il parlait sans lever la tête. Il était à genoux en train de battre les œufs dans un petit plat d'étain. « Nous allons faire une jolie dinette. »« Croyez-vous que nous soyons hors de danger ?» demanda-t-elle pour dire quelque chose, car elle s'était aperçue que le silence entre eux était encore plus pénible que la conversation. « Je le crois, » assura-t-il. « Nous avons dépisté ces diables de Siguin. Pour plus de sûreté, nous ne voyagerons que la nuit. Demain, nous aurons atteint une ville. Nous prendrons le train, et dans 2 jours, nous serons en France. » « En France !» Elle pensait à Jean, mais elle n'osait prononcer son nom. Elle parla de son père. « Il est très souffrant, » lui dit Hubert. « Votre enlèvement l'a comme anéanti. Et puis, nous avions eu la veille une scène terrible. Si j'ai eu tort de vous écrire cette lettre, vous avez eu tort de la lui montrer. Enfin, quand j'eus appris cet incroyable enlèvement, je me suis empressé d'aller lui demander pardon, et je me suis mis à sa disposition. Il se trouvait alors avec Monsieur de Santierne. Il y eut une explication entre nous trois. Au point où en étaient les choses, votre père ne nous cacha plus rien de votre origine. Les Siguins l'ont reprise, nous dit-il, parce que c'est une petite princesse bohémienne. Sa mère était une Romanée de Severturn. Mon Dieu, c'était donc vrai ? S'exclama Odette d'une voix sourde. Je suis la fille d'une bohémienne ? Pourquoi rougiriez-vous de cette origine ? Releva tranquillement Hubert. Votre mère était, paraît-il, d'une grande naissance, et c'est bien ce qui fait votre malheur. Mais j'ai juré de faire votre bonheur, moi. » Sur ces derniers mots, il y eut un silence affreusement pesant. Odette entendait son cœur battre dans sa poitrine à coups sourds, précipités. Hubert reprit. Monsieur de Santerre n'attendit point la fin de la conversation. Il nous quitta en déclarant qu'un Santerre n'épouserait jamais une bohémienne, une enfant de la route. Odette s'était appuyée contre la muraille et cachait son visage dans ses mains. Elle eût glissé sur le sol si Hubert ne l'avait retenue. « Il était indigne de vous, » fit-il. « Ne l'aviez-vous déjà jugé ? Odette, moi seule je vous aime. Je vous ai toujours aimée, Odette. » Elle sanglotait. Elle ne s'apercevait pas qu'elle était dans ses bras, mais lui, brusquement desserrant son étreinte, saisit d'un geste dont il n'était plus le maître cette petite tête adorée, baignée de larmes, et baisa follement ses lèvres entr'ouvertes par le désespoir. Ce baiser de feu rendit soudain à Odette toutes ses forces. Dans un geste irrésistible, elle rejeta Hubert, qui dut s'appuyer au mur pour ne point faire une chute ridicule. « C'est donc pour cela que vous m'avez sauvé !» lui cracha-t-elle férocement. « Vous savez, j'aime mieux les bohémiens !» C'était une lionne. Il ne la reconnaissait plus. Elle bondit du côté de la porte, mais il y fut avant elle, la prit dans ses poings terribles, la rejeta avec une brutalité sans nom au fond de cette tanière où il l'avait conduite, et il dit avec un ricanement gros de menace « Tu aimes mieux les bohémiens ? Que ton sort s'accomplisse, Odette !» 2. Tout cela est de la faute de Rouletabille. Jean s'était endormi. Le sommeil l'avait vaincu. Il ne se réveilla qu'à l'aurore. Les souvenirs des événements de la veille l'assaillirent en foule. Il se traîna prudemment quelques instants parmi les roseaux. Aucun bruit autour de lui. Il se rassura, il se leva. Il n'était plus en danger. Mais qu'était devenue Odette? Les bohémiens l'avaient-ils rejointe? Et si Hubert était parvenu à la sauver, qu'était devenu Hubert? Cette dernière pensée lui était plus pénible que tout. Il fit encore quelques pas et se trouva devant une plaine fumante des premiers feux du jour. Toute la surface de la terre semblait un océan de verdure dorée qu'émaillait mille autres couleurs. Parmi les tiges fines et sèches de la haute herbe croissaient des masses de bleuets aux nuances bleues, rouges et violettes. Le genêt dressait sa pyramide de fleurs jaunes. Des coquelicots faisaient des taches sanglantes sous ses pas. Tout l'air était rempli de mille chants d'oiseaux. Au loin, on entendait les cris aigus d'une bande d'oies sauvages qui volaient comme une épaisse nuée sur quelque étang perdu dans l'immensité de l'Apusia. « C'est le paradis !» fit Jean. « Et je meurs de faim !» Il était dénué de tout. Son cheval était certainement devenu la proie des bohémiens. Au loin, vers l'ouest, il apercevait la fumée d'un village. Ce n'est cependant point de ce côté qu'il se dirigea. La pensée d'Hubert et Odette l'occupait entièrement. Où s'était-il réfugié pour échapper aux bohémiens? Son regard fit le tour de la plaine et il remarqua à quelques centaines de mètres sur sa droite un petit bois qui, avec la soleil entourant les marécages qu'il venait de quitter, était le seul endroit où l'on pût se dissimuler. À tout hasard, il ne voulut pas quitter ces lieux sans avoir visité ce bois, et il y entrait bientôt. Ses yeux cherchaient sur le sentier des traces révélatrices, comme il avait vu faire à Rouletabille, mais rien de particulier n'attira son attention. « Ah, ce Rouletabille ! Tout était bien de sa faute. Pourquoi les avait-il quittés? D'abord, ils n'auraient jamais dû se quitter tous les trois, et pour beaucoup de raisons. » Le souvenir de la conversation qu'il avait eue avec Hubert revenait à Jean cruellement. De plus en plus, l'attitude du reporter lui apparaissait suspecte, incompréhensible. Jean ne croyait plus en rien, et c'était vrai qu'il n'avait plus confiance en Rouletabille. Du reste, il ne le lui avait pas envoyé dire. Dans la solitude du bois, Jean s'assit sur un tronc d'arbre renversé qui avait arrêté ses pas incertains, et se prit à réfléchir. Réfléchir à quoi? Au fond, il ne savait qu'une chose, dont il était absolument sûr, c'est qu'il était le plus malheureux des hommes. Tout à coup, il redressa la tête. Il avait entendu du bruit. Des branches s'écartèrent et un homme apparut. C'était Andrea. « Je te retrouve enfin !» lui dit le bohémien. Ainsi était-il apparu à Rouletabille dans les bois de New Watcher. Mais ça avait été pour le chasser. Cette fois, il ne paraissait point pressé de se séparer de Jean. « Me reconnais-tu ? » lui dit-il. « Non, lui dit le jeune homme. Les gens de ta race comptent si peu pour moi, mais je me doute un peu que tu n'es pas un ami. Je suis celui qui aimait Calista et à qui tu l'as volé, répliqua l'autre avec âpreté. Eh bien, fit Jean, nous sommes quittes. Je n'aimais pas Calista, moi, mais j'aimais une jeune fille que tu m'as ravie. Andrea, puisque c'est Andrea qu'on t'appelle, veux-tu gagner une fortune? Pour ce qui est de cette Calista, sois désormais tranquille. Je ne te la reprendrai pas. Mais aide-moi à retrouver Mademoiselle de Lavardan et je te ferai riche. » L'autre répondit à cette offre par un rire éclatant auquel d'autres rires non moins significatifs vinrent se joindre. Jean tourna la tête et constata qu'il était entouré d'une douzaine de bohémiens, armés, qui le considérait avec les plus méchantes mines du monde. Il fit quelques pas pour sortir du cercle qui l'enveloppait, mais il se heurta à des poitrines solides comme des murailles, à des gestes qui le repoussèrent. « Tu es notre prisonnier, » déclara Andrea. « Nous ne rentrerons pas bredouille au camp, » exprima Monoco, le rétameur, avec le plus pur accent de Pézenas. Jean se retourna alors vers celui-ci. « Tu es un pays ?» lui dit-il. « Et nous pourrions peut-être nous entendre si tu es moins sauvage qu'eux. Ce que tu viens de dire semble signifier que vous n'avez pas pu rejoindre la jeune fille des Camargues. Renseigne-moi, tu ne t'en repentiras pas. » L'autre haussa les épaules et lui tourna le dos. « Allons, suis-nous, » fit Andrea. Et il dut les suivre. En somme, c'était lui qui était venu se jeter dans leurs mains. Ne l'ayant pas trouvé dans les roseaux, il l'avait cherché dans le bois et y était resté en attendant l'aurore. De là, ils pouvaient surveiller toute la plaine, et ils avaient vu venir Jean. Il paraissait évident qu'Odette avait réussi à leur échapper. Cette idée qu'elle avait été sauvée par Hubert ne le remplissait toujours pas d'une joie immense. Il était très las, de plus en plus accablé par la pensée insupportable de cet Hubert libre de disposer d'Odette. Pour comble de malheur, il devait renoncer pour le moment à les rejoindre. Qu'est-ce que ces brigands voulaient faire de lui? Ils venaient de le désarmer et il marchait captif au milieu de la bande. Chose singulière, cette dernière aventure le laissait à peu près indifférent quant au sort qui lui était réservé. En vérité, il ne pensait qu'à Hubert pour le haïr et aussi, de temps en temps, à Rouletabille, pour le maudire. Les bohémiens lui faisaient prendre des chemins impossibles pour éviter la route et même le moindre sentier tracé. Ils n'arrivèrent au camp que vers le soir. La consternation y régnait toujours. Quand ceux qui étaient restés là virent qu'on ne leur ramenait pas la Kera, ils firent entendre des cris de rage et d'horribles menaces à l'adresse de Jean, puis mille lamentations. Les femmes se couvraient les cheveux de cendre. Zina était comme possédée du démon. Elle invoquait toutes les divinités ciganes dans un charabia forcené. N'ayant rien de mieux à faire, tous revinrent vers Jean avec des clameurs féroces. Calista se montra soudain et ne fut pas la moins acharnée. Sumbalo dut intervenir dans le moment qu'Alexis et les autres à une vengeance immédiate. Jean ne reconnaissait plus cette furie. Et quoi ? C'était là la petite maîtresse, bizarre et nonchalante, qu'il avait parée comme une poupée pendant 2 ans, et dont il avait cru avoir fait une parisienne ? Toute la sauvagerie première de la race lui remontait dans les yeux, en flammes éblouissantes, dans la gorge, en menaces et en injures, où l'annonce des pires supplices se mêlait à des assertions très offensantes pour la vertu d'une mère qui avait engendré un pareil monstre. « Le patriarche prononcera, » déclara Sumbalo. « Lui seul a le droit de juger un si grand crime. » Il finit avec un discours pour apaiser tout le monde. Callista elle-même s'éloigna et on laissa Jean un instant tranquille. Sumbalo se rapprocha de lui pour lui dire « Tu n'as qu'une façon de t'en tirer, Rumi. C'est de nous dire où se trouve notre reine. Tu dois le savoir. » Jean ne lui répondit même pas. Alors Sumbalo s'éloigna, lui aussi, très ennuyé. C'était là la plus funeste aventure de sa vie, avoir laissé échapper la Kera. Heureusement qu'il ramenait l'un de ses gadjis à Severturn. La colère du peuple retomberait sur celui-là. Il tenait à ce qu'il y revînt vivant. Aussi lui fit-il donner quelque nourriture. Pendant les heures qui suivirent, d'autres bohémiens qui s'étaient attardés de leur côté à retrouver la piste d'Odette rentrèrent dans un état de dépression avancée. La nouvelle de la capture d'un Rumi ne pouvait les consoler. Ils allèrent lui montrer le poing, puis s'en furent se coucher. Les feux s'éteignaient. Jean s'était roulé dans une couverture de cheval qu'on lui avait jetée. Il savait qu'autour de lui on veillait, et que toute tentative de fuite était impossible, du moins dans ses premières heures. Il ferma les yeux et essaya de dormir. Une main lui toucha l'épaule. Il tourna la tête. Callista était étendue près de lui et elle lui parla, la bouche presque collée à son oreille. Alors elle lui expliqua en quelques mots que sa fureur contre lui n'était qu'une comédie destinée à tromper les Siguins. S'il le voulait bien, il n'avait qu'un mot à dire et rien n'était perdu. En perdant Odette, murmura Jean, qui savait combien il allait la faire souffrir, j'ai tout perdu. Elle lui enfonça ses ongles dans la main à le faire crier. Tu es fou, lui souffla-t-elle à voix basse. Pourquoi m'excites-tu? Tu ne peux plus avoir d'espoir qu'en moi. Il ricana sournoisement. Dans son malheur, c'était une satisfaction rare pour lui que de savoir cette femme aussi désespérée que lui et soumise, en somme, à son caprice. « Un mot, » répéta-t-elle en se rapprochant de lui, « et nous fuirons ensemble. » Il eut encore un sourd ricanement. Elle lui mit une main sur la bouche. « Tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi. » Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas, à Severturn. Si tu le savais, tu réfléchirais. Ou plutôt, tu me dirais « Partons, partons tout de suite. » Je ne te demande pas de m'aimer. Je ne te demande qu'une chose. Laisse-moi te sauver. Dis-moi oui. Et tu t'enfuiras avec moi. Il le faudra bien, tu penses. Qu'est-ce que ça te fait? Ne m'as-tu pas aimé? N'avons-nous pas été heureux ensemble? Rappelle-toi avec quel plaisir tu me montrais à tes amis. Je n'étais pas une femme comme les autres, disais-tu. Rappelle-toi, Jean, rappelle-toi. Non, je ne suis pas une femme comme les autres, et je saurais bien te la faire oublier, ton Odette. Il ne l'écoutait même plus. Il s'était retourné pour lui faire comprendre qu'il était là de l'entendre. Mais elle le pressait davantage. Excédée de le voir de marbre sous son haleine chaude, dont elle lui caressait l'oreille. Tout à coup, elle se sentit saisir brutalement et jeter loin de Jean comme un paquet. « Ah, Hucheda, chienne bonne pour les roumis !» Et une bordée d'injures siguènes accompagnée de coups de botte qui la firent se relever à demi, ralente de rage. Toutefois, une gifle effroyable la rejetait à terre, sanglotante, vaincue. Elle avait profité du sommeil d'Andrea pour se rapprocher de Jean, mais le sourd murmure de ses prières avait fini par réveiller le bohémien, qui était aussitôt intervenu à sa façon. Il n'y avait rien à dire, c'était dans l'ordre. Calista n'avait que ce qu'elle méritait. Elle jugea inutile de protester. Au matin, le camp fut levé. Jean fut enfermé dans la roulotte qui avait vu la captivité d'Odette et toute la bande s'achemina vers Severturn. 3. Histoire d'un épouvantail et d'une mouche. La première chose que vit Jean dans sa roulotte fut cette inscription au couteau qui, de toute évidence, avait été faite par Odette. « Au secours, petits os !» Ce fut un moment atroce, le plus dur qu'il eût encore passé depuis le début de cette affreuse aventure. Ainsi, dans sa détresse, c'était à Rouletabille qu'Odette avait pensé. C'était lui qu'elle avait appelé. Le nom de Jean n'était nulle part. Petits os. Petits os. Locution familière dont elle s'était servie avec une innocence apparente à Lavardant, parce que ce diminutif enfantin de Joseph, le prénom de Rouletabille, l'avait amusé. Et lui, Jean, dans sa candeur, avait trouvé cela tout naturel. Comme il s'était moqué de lui. Et dans ce temps-là, lui, Jean, n'était préoccupé que par Hubert. Mais Hubert était un ange à côté de ce sournois de Rouletabille. Ainsi vont les sentiments des poètes, qui sont excessifs en tout, glissant de l'enthousiasme à l'horreur au gré d'une inspiration déterminée par l'événement le plus chétif. Si quelques lettres gravées dans le bois faisaient plus pour la conviction de son malheur que toutes les histoires qu'Hubert lui avait rapportées de son entrevue avec Madame de Méran. En tout cas, elle venait singulièrement les confirmer. Ah, maintenant, on pourrait faire de lui tout ce qu'on voudrait à Severturn. Le monde entier, la création tout entière, à cause de son désastre particulier, lui procurait un dégoût insurmontable. Il ne demandait qu'à être débarrassé de la vie, cette erreur de Dieu. Combien eût-il été plus persuadé encore, s'il en avait eu besoin, du mensonge de l'amitié, s'il avait su que Rouletabille, dans le moment même qu'il maudissait sa trahison, le voyait passer, captif des bohémiens, lamentable silhouette appuyée à la vitre d'une roulotte, sans en paraître autrement ému, et que le reporter n'en avait marqué aucune particulière émotion. Il n'avait même pas tenté un mouvement pour les suivre. En effet, à cette date, nous relevons les lignes suivantes. Carnet de Rouletabille. Jean vient de passer au milieu des bohémiens. Il s'est fait pincer, l'idiot. N'eût-il pas mieux fait de me suivre comme je l'en priais, comme je l'en suppliais? Mais non, monsieur ne voulait en faire qu'à sa tête, et il en avait assez de la mienne. Beau résultat. Me voilà réduit à ma plus simple expression. Je n'ai plus de troupes, et je vais avoir peut-être à combattre un monde d'ennemis. Tout cela va dépendre de ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà 36 heures que j'attends Hubert. Il ne saurait plus tarder. Je suis venu jusque-là, appuyé comme toujours sur mon cher bon bout de la raison, qui m'a montré la route de Severturn. Quoi qu'en ait dit ce pauvre Jean, c'est là qu'il viendra avec elle. C'est ici qu'il passera, j'en suis certain. Les raisons de ma certitude, je ne pouvais les donner à Jean. J'y ai bien pensé, mais le connaissant comme je le connais, cela était radicalement impossible. Il aurait dû me croire sur parole. Mais pour me croire, il faut m'aimer. Jean ne m'aime plus. Ce qui me console, c'est qu'il m'adorera dans 15 jours. En attendant, ça manque de confort moderne ici. Je suis au fond d'une vieille hutte faite avec de la boue, la plaine est devant moi. Derrière, j'ai la montagne, et derrière la montagne, c'est le patriarcat. Me voici sur le seuil qu'il ne faut pas laisser franchir à Odette. Pour elle, c'est le seuil du tombeau, comme dirait le poète. Heureusement, Hubert ne m'attend pas par ici, et il ne peut soupçonner que je l'attends. J'aurai le bénéfice de la surprise. Il faut que j'aie triomphé avant qu'il se soit rendu compte de l'attaque. Sans quoi, dame, je ne pèserai pas lourd devant lui. Il tue les hirondelles au vol, envoie d'une chiquenaude rouler les taureaux dans la poussière et manie le cheval comme le nommait Centaure lui-même. Oui, mais je suis plus malin que lui. Et c'est ceci qui tuera cela, comme disait le père Hugo. Du point où je suis, j'aperçois la route devant moi, à plus d'une lieue. Je le verrai accourir, le beau cavalier, avec Odette, plus ou moins ficelée devant lui. Certainement, il n'a plus à se gêner. Maintenant, il ne risque plus que de rencontrer des bohémiens, des cigains de Severton qui, au besoin, lui prêteraient main forte. Oui, mais... Eh bien, voilà, je lui ai préparé quelque chose de gentil. Si je ne risquais point de tuer ou de blesser Odette, j'aurais déchargé sur lui mon revolver à la volée. Son crime, cette fois, est patent, et je sens que le souvenir de son trépas ne troublera pas mes nuits. Or, à cause d'Odette, je suis obligé d'agir à coup sûr, c'est-à-dire à bout portant. Et voilà bien où gît la difficulté. La route ne se trouve encaissée que passé la frontière du patriarcat. Jusque-là, elle est largement découverte à droite et à gauche. Ma hutte est sur le premier contrefort de la montagne, beaucoup trop loin pour que je puisse y rester caché. Tout le problème est là. Il faut que je sois au bord de la route et je ne peux m'y cacher. Et cependant, il ne faut pas qu'il me voie. Alors, au bord de la route, il y a un champ de blé. Oh, le blé est encore vert et tout petit, mais au-dessus du champ de blé et tout près de la route, il y a un épouvantail. Oui, un simple épouvantail pour moineau. C'est magnifique! Cet épouvantail a une étrange redingote, ou plutôt une lévite déchirée, qui prend ainsi un aspect tout à fait somptuaire. Les bras sont étendus en croix et semblent bénir la moisson qui lève. Enfin, il y a un chapeau de feutre à bord rabattu qui donne à l'ensemble un air fort gaillard. Tout le monde a compris. Je me glisse dans l'épouvantail et je me colle le feutre sur le côté, de façon à cacher ma figure. J'étends les bras en croix. Sachez enfin que je tiens dans la manche, heureusement un peu trop longue de l'épouvantail, un solide Browning tout prêt à tirer. Le monsieur passe à côté de moi, à me toucher sans se douter de quoi que ce soit. Et moi, je lui brûle la figure. Et voilà, ça n'est pas plus difficile que ça. Le problème est résolu. C'est QFD. Ce cher monsieur Hubert roule dans la poussière, Odette est sauvée, on s'expliquera ensuite s'il n'est pas mort. Attention, j'aperçois un petit nuage de poussière là-bas sur la route, vite à l'épouvantail. Les notes du carnet ne reprennent que le lendemain, et nous relevons encore ces lignes qui viennent terminer cette étrange histoire d'épouvantail. Rouletabille y retrace les faits comme s'ils se passaient à l'instant même. Voilà un quart d'heure que j'ai les bras en croix et que je ne bouge pas plus que si j'étais réellement en bois. Je commence à avoir une crampe. Est-ce qu'il va bientôt arriver, l'animal? Je parle du cheval qu'Hubert a dû mettre au pas pour le reposer d'une longue course. Ici, il se sent en sécurité. Il se permet de laisser souffler sa bête. Cependant, je suis dans une position fatigante. Il devrait tout de même un peu se presser. Ma crampe. Ah, le pas du cheval sur la route. L'animal, cette fois je parle d'Hubert, a remis sa bête au trot. Bon, maintenant voilà que j'ai des fourmis dans les pieds. Zut, Hubert a remis son cheval au pas. Ce qu'il faut de patience à un épouvantail. Encore le petit trot. Cette fois, ça y est, j'assure mon Browning dans ma main droite, encore quelques secondes, j'entends la respiration du cheval. Enfer et mastic. Ce n'était pas assez que d'avoir des fourmis dans les pieds. voilà que juste à ce moment, une mouche, un moucheron, un puceron de rien du tout, vient se poser sur le bout de mon nez. Et d'un geste inconscient de la main gauche, je m'administre une tape retentissante. Un coup de feu, une balle fait sauter mon chapeau. 4. Notre combat sera celui de deux torrents, ou de deux vents partis de deux points différents. Nous serons deux bûchers dont la flamme ennemie, pour s'entre-dévorer, s'élance avec furie. Œuvre complète de Rouletabille. Rouletabille fut tellement vexé de ce ridicule incident, qui faillit lui coûter la vie, que ses notes sur le combat qui s'ensuivit sont des plus brèves, et qu'il serait difficile seulement avec leur secours d'en reconstituer les épisodes. Heureusement que Rouletabille avait ses heures de bavardage, et voici comment il a raconté la chose bien avant qu'il ne lui eût pris la fantaisie de mettre l'événement en vers, un jour de mélancolie. J'avais senti le vent de la balle, et j'étais si bien abruti par le sentiment de ma propre stupidité que je restais là, tête nue, exposé au coup d'Hubert, qui naturellement m'avait reconnu. Il ne jugea pas utile de m'assassiner, il le pouvait. Sans dommage, car la manche de l'épouvantail avait complètement glissé sur ma main droite qui tenait le Browning, et je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Hubert était à cheval, j'étais à pied. Il pensa que j'étais tout à fait démonté, que j'avais dû abandonner ma bête quelque part, et que, pour se débarrasser de moi, il n'avait qu'à piquer des deux, ce qu'il fit illico. Odette, qu'il avait en travers de la selle, devant lui, n'avait pas poussé un cri. Je jugeai qu'elle devait être bâillonnée, ou peut-être évanouie. Après m'être débarrassé assez difficilement de ce malheureux épouvantail, que j'avais considéré un instant comme la plus belle invention de ma vie, j'avais pris mes jambes à mon cou. En me voyant courir ainsi derrière son cheval, qui filait comme le vent, Hubert se mit à rire, d'un petit rire insultant qu'il m'envoya en guise de dernier adieu. C'est de cette façon que le brigand parvint à la montagne, ce qui lui permit de reprendre haleine après cette algarade. Ainsi continua-t-il une demi-heure environ sa route en père peinard. Je répète qu'il pouvait se croire tranquille, car la frontière n'était pas loin, et il n'y avait pas un être dans la contrée qui ne lui eût apporté son aide au premier appel. Soudain, il y eut comme un bruit d'éboulement sur sa gauche. Il tourna la tête et m'aperçut qui arrivait sur lui comme un torrent. Cette fois, j'étais monté, moi aussi. J'avais dissimulé mon cheval entre deux plis de terrain, derrière les premiers contreforts, en un endroit admirablement stratégique, si j'ose dire, car un sentier de chèvres m'y conduisait directement, et un autre en descendait pour couper un peu plus loin la route qui, elle, avait fait un détour au flanc des monts, de telle sorte que nous nous trouvâmes lancés l'un contre l'autre dès qu'il eut de nouveau rendu les rênes. La ridicule issue de l'aventure précédente m'avait rendu comme fou de rage. J'étais bien résolu d'en finir avec cet insupportable monsieur. Le choc fut brutal. Nos chevaux se cabrèrent, hennissant, écumant, comme s'ils allaient se dévorer. Et c'est ce qui, momentanément, me sauva. J'avais espéré le renverser, car je n'osais toujours tirer à cause d'Odette. Mais il me déchargeait son Browning à bout portant, et j'aurais certainement eu plus que mon compte si ma bête, ainsi dressée sur ses sabots de derrière, n'avait formé bouclier. Elle reçut trois balles dans le poitrail, et les autres projectiles ne firent que m'érafler, tandis que je roulais avec mon cheval dans la poussière du chemin. J'eus le bonheur d'éviter d'être pris sous ma monture, et je fus debout en une seconde. Je bondis au naseau du cheval d'Hubert. Cette fois, c'était moi qui avais l'avantage, car mon adversaire, ayant brûlé toutes ses cartouches, se trouvait désarmé devant moi. Je lui criai de se rendre en déchargeant à mon tour mon arme dans la tête de sa monture. Mais hélas, un furieux coup de pied qui m'arriva en pleine poitrine fit dévier l'arme et me rejeta brutalement sur le roc, étourdi et sanglant. Je crachais le sang. J'étais aveuglé par la fureur. Ma malice n'avait servi de rien, et je venais d'être vaincu dans ce combat stupide. Il y a des jours où l'on n'a pas de chance. Du reste, rien ne me réussissait depuis mon accident de chemin de fer. Depuis que cette vieille sorcière de Zina était venue me soigner. Pour sûr, elle m'avait fichu le mauvais œil. Pendant ce temps, Hubert disparaissait avec Odette, qui pendait à son bras comme morte. Puis je le vis réapparaître sur une autre crête. Une troupe de cigains accourait vers lui. Il leur parla, le bras tendu dans ma direction. J'entendis des cris de fureur, et je rassemblai mes dernières forces pour me glisser comme une couleuvre dans une anfractuosité du roc, sorte de puits-caverne dont je dissimulai à la hâte l'orifice avec des ronces. J'avais traîné là mes impedimenta, ce que j'appelle mon nécessaire de voyage, roulé dans ma couverture. J'étais décidé à périr dans ce trou si j'étais découvert, après avoir vendu, bien entendu, ma vie le plus cher possible. Mais on me laissa tranquille. Ils passaient près de mon trou sans même en soupçonner l'existence. Tout de même, je n'étais pas fier de moi. J'avais été au-dessous de tout à cause d'une mouche. Et dire qu'il y a un monsieur qui a écrit quelque part que l'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. 5. Et ce sont nos aïeux qui, pour vous, ont construit ce cachot ténébreux. Anonyme. Severthorn, tes vieilles maisons humides et décrépies, tes murailles chancelantes, tes rues défoncées, tes façades lépreuses, ton palais croulant, ton antique basilique, tes tours maussades qui défendent le sanctuaire où, depuis des siècles, en dépit des révolutions, des invasions et des fléaux qui dévastent le monde, on conserve la tradition et le rite, comme tout cela avait changé de visage à la première annonce de la bonne nouvelle. Tu n'étais qu'un linceul, tu étais devenu en un moment une draperie de fête. Tu n'étais qu'une plainte, tu étais devenu un chant. Reportons-nous à ces premières heures d'enchantement. Que de tapis, de drapeaux, de bannières! Les cloches carillonnent, le peuple est en liesse. Les paysans accourent des lointaines campagnes, poussant leurs ânes chargés d'enfants qui agitent des rameaux fleuris. Sur les remparts, les cigains déchargent leurs armes, tandis que les jeunes filles apportent sur les places publiques leurs corbeilles embaumées. Devant l'arche de la porte occidentale, une foule remuante attend inlassablement celle qui doit venir. Il n'est point jusqu'au nouveau quartier européen. Ainsi s'exprime ce peuple, comme s'il n'était toujours qu'une horde d'Asie, qui ne se soit rempli exceptionnellement de voyageurs, voire de touristes, qui ont fait un crochet jusqu'à Severthorn pour assister à cette extraordinaire bonne aventure. L'hôtel des Balkans, tout proche du caravansérail, a repeint à neuf ses volets verts, mis un crépi rose, nettoyer les carreaux de la grande salle de banquet. On dirait un vrai palace, avec son vestibule dallé d'ardoises polies comme le marbre et le grand drapeau tout neuf du consul de Valachie, au personnage qui habite le plus bel appartement au premier étage, comme il convient à celui qui représente le corps diplomatique à lui tout seul. On est ici en pleine civilisation. Et, traverser la rue, on est en plein Moyen-Âge. Contraste savoureux. Que ne manque point d'apprécier ceux qui voyagent à travers le vaste monde avec un petit livre rouge à la main. Pénétrons dans le temple. Traversons les cours de cette forteresse où grouillent prêtres et fidèles dans un entassement multicolore, assiégeant les parvis. Les riches ont sorti leurs plus belles chemises rouges et leurs tuniques jaunes, et leurs ceintures damasquinées. Mais les loques ne manquent point de couleur non plus, dans cette gamme éblouissante de lumière. Sous un soleil torride, passent les popes tout noirs, porteurs d'icônes d'or, habillés de longs voiles, comme des femmes en deuil. Des hommes s'appuient, pensifs, à de longs bâtons, des mères découvrent des poitrines décharnées et tentent d'y allaiter leur enfant. Une grande joie est répandue sur tous les visages. Ils sont arrivés, ils verront la petite reine. Ils murmurent les versets prophétiques du livre des ancêtres qu'on leur a volé. Ils attendent la Kéra. Enfin, les portes de fer du grand sanctuaire leur sont ouvertes. Ils se précipitent. Là-bas, tout au fond, le patriarche Féodore, coiffé de la tiare fabriquée jadis au pays d'Azur, prétend la tradition, s'avance, suivi d'un chœur de vieillards. Tous s'assoient dans les fauteuils de marbre. Les prières vont commencer, sitôt que l'on signalera l'approche de la Kéra et de son cortège, au-devant duquel est allé le grand coesre, celui qui porte le fouet en sautoir pour flageller le monde, quelque chose comme le ministre de la guerre. Mais tout à coup, une immense clameur vient s'engouffrer sous les voûtes sacrées, en même temps qu'accourt, à bout de souffle et couvert de poussière, le messager du malheur. Il s'effondre au pied du patriarche. La Kéra a été enlevée par les Roumis. Et il a encore la force d'ajouter « Mais nous te ramenons l'un de ses ravisseurs. » Alors il y eut dans le temple un effrayant silence, plus terrible que tout ce que l'on peut imaginer, et qui faisait un horrible contraste avec les hurlements de désespoir qui commençaient à s'élever des quatre coins de la cité maudite. Le patriarche n'avait même pas eu un regard pour le messager, qui peut-être expirait de douleur à ses pieds. Il s'était dressé et attendait maintenant, dans une immobilité de statue, entouré de toutes ces autres statues qu'étaient devenues eux aussi les vieillards, il attendait que le grand coerce, qui venait à son tour de pénétrer dans le temple, eût poussé jusqu'à lui le Roumi prisonnier. « Eh bien, celui-là peut numéroter ses os !» prononça à mi-voix, derrière un pilier, Monsieur Nicolas Tournesol, en voyant passer devant lui le captif, suivi d'une tourbe aux gestes assassins. Monsieur Nicolas Tournesol était représentant de commerce, le seul commis voyageur qui eût peut-être jamais mis les pieds dans le patriarcat, où du reste, il faisait fortune avec sa marque de champagne et ses boîtes de conserve. Sans concurrence, il représentait à Severturn le commerce de toute l'Europe, comme d'autre part le consul de Valachie représentait la diplomatie des deux mondes. Il vendait de tout et avait acheté des terrains dans le quartier européen, qui semblait devoir prendre un développement rapide, depuis qu'une compagnie anglaise construisait une route permettant d'accéder aux champs de pétrole. Il avait mis aussi de l'argent dans le palace, l'hôtel des Balkans, anciennement hôtel du caravansérail, dont le patron suivait religieusement ses conseils pour attirer et rouler la clientèle. Mais revenons au Roumi prisonnier, qui n'était autre que Jean de Santierne, lequel apparaissait dans un assez fâcheux état. Aux portes de la ville, il avait failli être écharpé. On avait dû lui faire faire le tour de la muraille, et on n'avait pu le faire pénétrer dans l'intérieur de l'enceinte que par une ancienne conduite des eaux desséchées qui aboutissait dans une cour du temple. Encore là, s'il n'avait pas été lapidé, c'est que le grand coerce s'était mis à ses côtés, et que la population de Severturn avait en grande crainte et vénération son ministre de la guerre. Non que celui-ci eût gagné beaucoup de batailles, mais il avait une façon de manier le fouet qui flagellait le monde, qui imposait immédiatement le respect. Le grand coerce était surtout célèbre pour avoir maté dans les mauvais jours la révolte des Lingurari, dont le métier est de fabriquer des cuillères et des vases de bois. Celles de Liesse, qui sont la plus basse classe des tribus nomades, véritables vagabonds, lesquels, sous prétexte de dévotion et exercice de piété, ne viennent à Severturn que pour se faire nourrir à l'œil, comme disait M. Nicolas Tournesol, par les prêtres et les gardiens du temple. Enfin, nous saurons tout du grand Coerce en rappelant qu'il s'était tout à fait distingué dans l'affaire des Balogards, clan tout puissant à Severturn, oligarchie conservatrice qui avait tenté d'empiéter sur les pouvoirs du patriarche. Balogard veut dire voleur, mais on aurait tort d'attacher à ce mot cigain un sens péjoratif. Ces Balogards étaient des personnages considérables, d'anciens voleurs au rendez-moi, qui, après avoir patiemment fait fortune sur tous les marchés du monde, étaient revenus au pays pour y jouir en paix du fruit de leurs économies et de la considération générale. Ils avaient la majorité dans les conseils de la nation, affichaient des mœurs austères et trouvaient que le patriarche était trop aimé du peuple. Mais un beau jour, en plein conseil du municipe, le grand Coerce avait détaché son fouet, qu'il portait toujours en sautoir, et il en avait fait siffler la lanière de cuir d'une si singulière façon que messieurs les Balogards se l'étaient tenus pour dit. Depuis, il laissait la paix au patriarche, et le patriarche aimait bien le grand Coerce, avec lequel il faisait le plus souvent la pluie et le beau temps à Severturn. Mais il y faisait le plus souvent la pluie, à cause du voisinage de la montagne. Jean était en sang. Soutenu par le grand Coerce, il gravit au milieu des huées les degrés au haut desquels se tenait le grand prêtre, entouré du cœur des vieillards qui s'étaient laissés retomber sur leurs chaises curules. Derrière venaient Sumbalo, Andrea, Succo le forgeron et d'autres qui avaient aidé à capturer le Roumi. On ne voyait pas Ina, qui, depuis la disparition d'Odette, était comme morte. Calista était restée en arrière et assistait à tout, sans se méfier de rien. Elle était dans un état d'esprit qui la faisait beaucoup souffrir, car au fond, sa haine de Jean était toujours combattue par le remords de l'avoir conduit de ses propres mains au bord de l'abîme où on allait le jeter. Cette haine-là, cela s'appelle encore de l'amour. Qu'était-elle venue faire jusque-là? Entendre la condamnation de Jean? Sans aucun doute. Mais assurément, elle n'aurait pas la joie que, dans la férocité implacable de sa première rancune, elle s'en était promise. Tout le monde sait que le cœur des femmes est plein de contradictions. Voilà le coupable, fit le grand Coerce en poussant Jean devant le patriarche. Aussitôt, le redoutable silence du temple fut rompu par 1000 cris de mort, auxquels répondirent ceux du dehors. C'était comme un bruit de tonnerre qui, succédant au silence affreux de tout à l'heure, quand on avait appris le rapt de la reine, faisait frissonner les plus braves. Monsieur Nicolas Tournesol lui-même, qui cependant en avait vu bien d'autres, murmura attristé « Le pauvre jeune homme !» Calista était près de défaillir. « Ah mort ! Ah mort ! Est-ce que vraiment on allait lui mettre à mort son Jean ?» Et soudain, elle eut horreur de son œuvre. Elle avait voulu la mort d'Odette, et c'était son Jean qui allait mourir. D'un mouvement dont elle ne se rendit point compte, elle s'approcha de Féodore et se jeta aux pieds du patriarche. Elle, qui était à la vérité, le seul bourreau de Jean, elle cria « Pitié pour cet homme !» Une protestation formidable en même temps que les poings d'Andrea lui fermèrent la bouche. Le cigain la poussa brutalement hors du degré et l'envoya rouler sur les dalles. Alors le patriarche parla. Il demanda à Jean « N'iras-tu avoir été complice de l'enlèvement de la Kéra ?» Jean ne répondit pas, car il ne comprenait pas. Les paroles avaient été prononcées dans le langage sacré des cigains de Transbalkanie. Mais Andrea traduisit la phrase, et alors Jean répondit qu'il avait fait en effet tout son possible pour sauver sa fiancée des mains des voleurs, et il ajouta même que s'il était libre, il recommencerait. On ne lui en demandait pas tant, c'était du luxe. Les clameurs repartirent de plus belle. Il y eut une bousculade sérieuse, les gardiens eurent fort à faire. Le patriarche leva la main et on l'écouta de nouveau. « Songe, fit-il, que toi et les tiens avez commis contre ce peuple le plus grand crime qui se puisse imaginer, et que si tu ne nous aides point à le réparer, tu en supporteras tout le poids. » « Je ne tiens pas à la vie, répondit Jean. Mais pour votre gouverne, monsieur le patriarche, je vous avertis que je suis citoyen français et que vous aurez à répondre de ma mort. Nous répondrons que ta mort a été un acte de justice. Allons, réfléchis, écoute les menaces de ce peuple qui s'impatiente. Nous retrouverons notre reine, où qu'elle aille, où qu'on la cache. Son destin est écrit, mais le tien est en train de s'écrire. Veux-tu nous aider ? Jean haussa les épaules. Ce mouvement était une insulte à la majesté du prêtre et du lieu. L'injure du Roumi avait déchaîné à nouveau le tonnerre. Aux cris de mort se mêlaient d'autres cris. « Le supplice ! Le supplice !» Les uns réclamaient qu'on le brûlât à petit feu, les autres qu'on lui coupât les membres d'abord, et puis qu'on lui scia la tête. D'autres réclamaient qu'on le mît en croix. Les gardiens se battaient avec la foule pour qu'elle n'envahît point l'enceinte sacrée, mais ils allaient être débordés. Le patriarche, poussé par les vieillards effrayés, se hâta de prononcer la sentence. « Nous te condamnons à mourir de faim. » Cette sentence fut généralement trouvée douce, et il y eut bien des protestations, mais certains expliquaient qu'elle était très sage, car, outre qu'elle était fort douloureuse, elle donnait tout le temps à Jean de réfléchir, et peut-être se déciderait-il à dire où était la Kéra. Quant au Roumi, il fut entraîné aussitôt par les gardes dans les dessous du temple, dut traverser les couloirs obscurs, étouffants, creusés dans le roc, qui conduisaient au cachot du palais. Une porte grillée à mi-hauteur fut ouverte, qui sans doute ne l'avait pas été depuis longtemps, car une bande de rongeurs qui apportaient dans cette tranquille retraite le fruit de leur larcin s'enfuit en tumulte. Ce réduit était hideux. Le grand Quers y poussa Jean. C'est là que le pauvre jeune homme devait mourir. 6. Où Nicolas Tournesol fait la cour aux dames. À l'enthousiasme qui avait soulevé cette ville succédait une sombre consternation. En quelques secondes, le décor s'était transformé à nouveau. La parure éclatante dont les édifices s'étaient revêtus avait disparu comme par enchantement. Et le visage morne, flétri, lézardé de l'antique cité, s'était penché à nouveau sur son peuple gémissant. Les fleurs du chemin avaient été rageusement piétinées. Plus de champs, plus de bannières. Sur les tours du temple, des bras levés imploraient la pitié de la divinité. Mais le ciel, devenu subitement inclément, se couvrait d'un manteau de cendres sous lequel il paraissait vouloir ensevelir tous les espoirs de la terre. Monsieur Nicolas Tournesol rentra à l'hôtel d'un pas traînard et avec une mine assez mélancolique. Il avait beaucoup compté sur les réjouissances du couronnement pour donner à ses affaires une ampleur capable de lui assurer définitivement la fortune. Il avait une forte commission, surtout sur le champagne, dont il avait espéré une consommation effrénée. Hélas, l'affaire avait mal tourné, et il y aurait dû laisser pour compte. C'est donc avec des pensées assez mornes qu'il pénétra dans le grand vestibule de l'hôtel à peu près désert, car tous les touristes étaient sortis pour assister aux événements. Cependant, Nicolas Tournesol détestait la tristesse. Il décida de la combattre à l'aide de quelques solides gin cocktails, comme il avait appris à les faire à Vladislas Kamenos, le patron de l'hôtel qui était en même temps son propre barman. Il s'installa sur un haut tabouret devant le comptoir d'acajou qui occupait le fond de la pièce, et il se disposait, armé d'une longue cuillère de métal, à faire de la musique avec la cristallerie, quand une dame, de mine piquante, vêtue avec simplicité mais avec élégance, fit son entrée. Tous deux se regardèrent. La femme continua son chemin, il descendit de son tabouret. « Ah, ça, mais j'ai vu cette figure-là quelque part, moi !» L'étrangère était allée s'asseoir devant une petite table où était disposée une écritoire, et elle allait commencer sa correspondance quand elle vit se dresser devant elle un gros garçon à la mine réjouie qui la saluait fort obséquieusement. « Je vous prie de m'excuser, madame, mais à Severturn, comme dans tous les Balkans, il n'y a personne pour me présenter. Je me présente donc moi-même. Je suis Monsieur Tournesol, Nicolas Tournesol. » « Mon Dieu !» fit la dame en souriant. « Je n'y vois aucun inconvénient. » « Vous ne me remettez pas ? Tournesol, le courtier en Champagne, l'ami des princes, des grands-ducs, et surtout des grands bars. Nous avons passé une soirée ensemble, avec vos amis, dans un luxueux palace. »« Vrai, monsieur ? Mais je ne fréquente pas ces établissements. » »« On vous y avait amené au moins cette fois-là. Tenez, il y a 5 ans de cela. Vous êtes bien madame de Méran. » »« Ah, mais vous avez raison. Oui, oui, parfaitement, je me rappelle. » « Dieu, que vous avez été drôle! Vous faisiez des déclarations à toutes les dames. »« Et à vous, madame, vous ai-je fait une déclaration ?»« Ma foi, non. »« Il est encore temps !» déclara tranquillement Nicolas Tournesol en s'asseyant sans plus de cérémonie à côté de madame de Méran. « Vladislas, 2 cocktails boum, vous permettez, madame ?» « Savez-vous que vous êtes tout à fait charmante ?»« Vous n'avez pas peur, monsieur Tournesol. »« Moi, je n'ai peur de rien, pourvu qu'on rigole. »« Pardon, madame, en tout bien tout honneur, je sais à qui j'ai affaire, et ce n'est pas moi qui vous manquerai de respect si vous aimez ce genre-là. »« Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Et vous ?»« Je vous dirai ça tout à l'heure. »« Eh bien, moi, je vous le dirai tout de suite. » Depuis la guerre qui m'a ruiné, je fais de tout. Je vends de tout. Je suis l'élément artériel, si j'ose dire, du fabricant, du consignataire et du négociant en gros, le vade-de-semper du double emploi, du rossignol et du trop-plein, le pourvoyeur aimé du caissier emballeur, du commissionnaire de roulage et du camionneur, le messie de l'hôtelier, le despote de la table d'hôte, le privilégié de la tabagie et le chéri des dames. N'en jetez plus, fit madame de Méran, mais je vous défends de fumer la pipe. Oh, on voit bien que vous êtes une femme du monde. Il y a longtemps que vous êtes arrivée? À l'instant, je suis venue pour voir la reine, mais il paraît qu'il n'y a plus de reine. Elle est retrouvée, leur jeta Vladislas qui accourait du dehors. Et il donna des ordres précipités pour que l'on replaçât les tapis au balcon, les drapeaux aux fenêtres et des fleurs partout. Tournesol, cramoisi, avait sauté sur le patron. « C'est vrai, ce mensonge-là ? Je vous dis qu'elle est retrouvée. Un cavalier vient de nous la ramener en travers de sa selle. Il l'a volée à son tour au Roumi. La ville est encore une fois sans dessus-dessous. Tenez, entendez les cloches !» En effet, elle se remettait à sonner à toute volée. C'était un carillon inouï, le chant d'allégresse suprême du bronze au-dessus d'une immense rumeur de fête. « Je vais aller voir ça, » fit madame de Méran en se dirigeant hâtivement vers la porte. « Attendez, nous y allons ensemble. On ne se quitte plus, » déclara Nicolas Tournesol en glissant son bras sous celui de madame de Méran, qui ne se défendit point trop. Cependant, quelques minutes plus tard, dans la foule, elle lui échappait, mais il se jura bien de la retrouver. Vladislas était déjà parti pour le temple. Derrière lui, tout le personnel abandonna l'hôtel. 7. La page arrachée au livre des ancêtres. Nous n'essaierons pas de donner même une idée de l'arrivée triomphale d'Hubert à Severturn. Il était accompagné d'une troupe de bohémiens qui criaient la nouvelle avant qu'ils eussent franchi les remparts. Ils avaient fait boire à Odette un cordial de leur façon qui aurait réveillé une morte. Elle était sans aucune force de réaction dans les bras d'Hubert, qui, du haut de sa selle, la montrait à tous, comme le palladium retrouvé. Quelques paroles nationales cigaines bien senties accompagnaient cette exhibition de la Vierge promise par les Écritures et redoublaient le délire des foules. Tous prenaient Hubert pour un vrai bohémien de la pure race, pour un frère. « La Kéra est retrouvée ! La Kéra est retrouvée !» La première personne qui se précipita au pied de l'idole à son entrée dans le temple fut Zina. Odette était portée plutôt que conduite au grand prêtre Féodore, qui la reçut dans ses mains tremblantes de respect et d'émotion. Dévotement, il la soutint jusqu'au trône d'ivoire qui lui avait été réservé, et quand elle y fut assise, il s'agenouilla devant elle par trois fois en murmurant les formules traditionnelles. À son exemple, trois fois le peuple s'agenouilla. Trois fois il se releva en poussant l'hosanna de victoire qui termine l'hymne à Débla, le dieu du jour. Alors Hubert s'avança vers le patriarche, et comme il demandait à prendre la parole, Andrea s'avança à son tour et dit « Celui-ci est un fourbe et un sacrilège, ce n'est pas un cigain, c'est un noble roumi des Saintes-Maries de la mer, et Sambalo et Succo le forgeron reconnaissent en cet homme le propre ravisseur de la reine. » Ayant dit, il porta une main brutale sur le maquillage d'Hubert, lui arracha la barbe, d'où il résulta une grande confusion. Mais Hubert, impassible sous l'outrage, croisa les bras et dit « Je savais qu'un complot était formé contre la Kéra par des étrangers. Je suis entré dans ce complot pour qu'il échoue et pour vous ramener moi-même celle que vous attendiez. » « Et quel était ton dessein en agissant ainsi ? » demanda le patriarche, qui, depuis le commencement de l'incident, n'avait point quitté l'étranger de son regard sévère. « C'est toi qui me le demandes ? » s'écria Hubert. « As-tu donc oublié le texte sacré ? Il fallait que les prophéties s'accomplissent. » Le patriarche alors étendit les bras et leva sa belle tête chenue, son front rayonnant d'une subite inspiration. « Cet homme dit vrai. Cet homme est l'envoyé de Sainte Sara, » s'écria-t-il. « Regardez-moi, vieillard, » reprit Hubert. « L'un de vous ne me reconnaîtra-t-il pas ? Il y a 2 ans, un des vôtres, frappé du fléau, me confia le livre. S'il est vivant, qu'il s'avance. S'il est mort, qu'il sorte du tombeau. » « C'est donc toi ! C'est donc toi ! » fit l'un des vieillards. « Toi dont m'a parlé avant d'expirer mon vieil ami, le pope Otichine, c'est donc toi à qui fut confié le livre ?»« Ce livre, où est-il ? » demanda le patriarche. « Ce livre m'a été volé, » répondit Hubert, « par des roumis qui fuyaient le pays. Je l'ai recherché en vain, mais j'ai pu en retrouver la page la plus précieuse, qui en avait été arrachée. » Il n'avait pas achevé ces mots qu'il présenta la page sacrée au patriarche et au conseil des vieillards qui se pressaient autour de lui. Alors le patriarche lut d'une voix retentissante qui fut entendue jusque sur le parvis du temple. « La fille de la race, qui sera marquée du signe de la couronne, sera volée par les roumis. Mais un roumi la ramènera dans la cité pour qu'elle soit proclamée Kéra et lui roi. Et ainsi, par cette union, la race sera régénérée. » Une prodigieuse clameur accueillait la lecture du texte sacré. 10 000 voix s'écrièrent « C'était écrit ! C'était écrit !» Le patriarche prit la main d'Hubert et le conduisit vers Odette, qui assistait, telle une icône, aussi insensible apparemment que l'ivoire de son trône, à cette scène formidable dont elle était le centre. C'est le roi du monde qui le fait le roi de la terre, prononça le prêtre. Celui-là sera ton époux. Or, à ce moment, il y eut des cris, des protestations, des pleurs d'enfants, des gémissements de femmes bousculées et qui se relevaient, menaçantes, derrière la sorte de trombe qui les avait renversées. Cette trombe ne s'arrêta que devant le patriarche. Cette trombe était Rouletabille. « Pardon, excuse, monsieur le patriarche, » fit-il. « Moi, j'ai quelque chose à dire avant la cérémonie. »